Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
Au sommaire de ce magazine, l'art de la parole. Griot du Mali, conteuse d'Haïti, slameur de Paris, il manie le verbe pour raconter, réconcilier, faire rêver, se rencontrer. L'histoire et les mythes, l'imaginaire et la poésie sont au rendez-vous et la musique n'est jamais bien loin. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur scène, le spectacle est au rendez-vous. Un griot qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, nous dit l'adage. Les griots seraient apparus au XIIe siècle au temps de l'Empire du Mali. Depuis des siècles, les griots et les griottes sont les maîtres de la parole, les gardiens de la tradition orale et musicale, les médiateurs de la société africaine. De la cour du plus grand au seuil du plus humble, ils ont su résoudre les conflits les plus graves et réconcilier les communautés les plus hostiles les unes envers les autres. Conseillers avisés, démarcheurs matrimoniaux et maîtres de cérémonie, les griots sont aussi de fins musiciens. Mais avec les mutations de société, la condition des vrais griots est aujourd'hui menacée. Un reportage d'Ariane Gafuri qui nous vient de Bamako.
Le griot, c'est la mémoire vivante de la société traditionnelle africaine. Contrairement à la définition que le dictionnaire français a donnée au griot, qui veut dire troubadour, musicien ambulant, ce n'est pas ça du tout. Le griot, chez nous, c'est lui le médiateur social, c'est lui le conseiller conjugal, c'est lui qui est chargé de donner l'information, c'est lui qui veille à la stabilité sociale pour qu'il y ait paix.
Mamadou Benchérif Diabaté est journaliste et président du réseau des communicateurs traditionnels du Mali. Il est aussi l'héritier d'une longue génération de griots. Il nous accueille chez lui à Bamako, en habit traditionnel bleu.
Cette valeur des griots existe au Mali, en Gambie, au Sénégal, en Guinée-Conakry et un peu au Burkina. Mais le berceau même, c'est au Mali. Dans l'organisation sociale du Mali, du Mandé ancien, dont le Mali est issu, il y a eu une répartition des tâches. On a confié le pouvoir à Sundiata Keïta et à ses descendants. L'empereur du Mali, c'était Sundiata Keïta. On a confié le travail du fer au forgeron. On a confié le travail de la peau au granguet. On a ainsi de suite, on a confié la médiation au maître de la parole, qui sont les griots. On a dit aux griots, votre rôle, c'est de contribuer à la stabilité sociale. C'est contribuer à ce qu'il y ait la paix. Et on a dit aux uns et aux autres, à chaque fois que les griots vont intervenir, essayez d'accepter leur intervention. Et donc, les uns et les autres se rappellent. Parce qu'il y a eu une évolution de la société jusqu'à nos jours. Mais à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, les gens se rappellent quand même de ça. Et donc, c'est pourquoi on nous écoute et il y a la considération pour cette valeur-là.
Le griot était conseillé.
Youssef Tata Cissé, ethnologue malien et ancien chercheur au CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique à Paris.
D'abord, il jouissait de l'humilité, c'est-à-dire personne ne pouvait le battre, ni le mettre à mort, même à la guerre. Donc ça lui permettait d'aller partout. Par conséquent, il était le porte-parole tout désigné de la famille ou du prince qu'il suivait, partout. Il devenait, comme on dit, sa bouche. C'est-à-dire, un roi chez nous ne parle pas haut. Il a toujours un interprète. Le griot est toujours là pour dire ce qui est, ce qui doit être. Il peut vous exhorter à faire la guerre quand il le faut pour sauver l'honneur de la patrie ou alors vous exhorter à la clémence, au pardon. Ensuite, il s'occupait des démarches matrimoniales. Et pendant les mariages, les chants de mariage, de réjouissance, on rejoint la fonction première de ces hommes et de ces femmes, c'est-à-dire la musique.
Né Mamadou Toungara, chef griot de Djongoloni.
Lui, c'est Mamadou Toungara, le chef des griots de Djongoloni.
Jeliw ko ɲɛmɔgɔ ya ko o kɔrɔ ye jamana tigiya de ye ni ma min kɛra jelikuntigi ye.
Le chef des griots, c'est le chef de la société. Le chef de griot a la fonction d'apaisement de la société. Et rien ne se passe sans qu'il soit consulté. Le griotisme se transmet toujours de père en fils. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, c'est comme ça.
Djelikeni djelimousou bé, bidjatigi de la sabali, walaka la foule.
Le griot, aussi bien que la griotte, a la même fonction. Il s'agit de rappeler les uns et les autres aux vertus ou aux qualités de leur société. Donc autant le griot le fait, autant la griotte le fait.
Au début, j'ai vu d'abord mes parents à l'exercice du griotisme. Donc j'ai grandi avec, malgré que je sois parti à l'école, les après-midi ou les moments que j'ai le temps, je l'exerce. Donc quelqu'un qui me consulte me demande de faire une démarche pour lui parce qu'il veut se marier. Hein, ma dernière opération, j'ai été sollicité par un gendarme qui voulait se marier. Donc j'étais dans le rôle du griot pour pouvoir faire une démarche sociale à sceller un mariage. Donc j'étais l'intermédiaire entre la famille de l'époux et la famille de l'épouse. Et puis donc les va-et-vient, aller à la mosquée, les achats de cola, négocier la dot, quotidiennement c'est ce qu'on fait. Aussi, il y a des jours où je suis consulté parce qu'il y a un époux qui s'entend mal avec son épouse. Donc l'époux ou l'épouse peut venir me voir, je peux vous parler d'un cas. Il n'y a pas une semaine seulement, il y a une dame qui était venue me voir chez moi à la maison. Bon, ça n'allait pas bien avec son époux. Donc, elle est venue se confier à moi pour que je voie un peu si je peux intervenir auprès de son mari. Parce que le mari avait décidé, il allait la divorcer. Donc j'ai su intervenir et puis on a agi en griot puisque nous sommes aussi les maîtres de la parole. Donc nous utilisons la parole pour vraiment adoucir les cœurs. Et puis essayer aussi de faire un rappel de la morale de la société et puis ramener les gens à la raison. Et donc voici qu'on a pu éviter une séparation de ce couple-là.
Je m'appelle Rokiaba. J'ai une griotte qui m'est fidèle. Sinon, ma famille a un griot. Et en principe, tout Malien, toute famille en tout cas, a son griot ou sa griotte. Mais elle, en fait... Et comme elle est griotte, elle vient régulièrement chez moi. Donc, elle fait des choses sans même... Elle prend le devant. Elle peut venir me dire, écoute, tu exagères. J'ai appris que tu as fait ça ou tu as dit ça. Je t'arrête tout de suite. Elle me parle et je ne peux pas lui refuser. Si elle me demande de ne pas faire quelque chose, je comprends ça. Et toute chose faite après coup, je me rends compte effectivement qu'elle a eu raison. Moi, en esprit cartésien, parfois, je me dis, bon, c'est une question de bon sens, c'est griot ou pas griot. Mais la tradition, comme de surcroît, elle est griotte, on le met sous le coup de... Parce qu'elle est griotte, elle a demandé, donc j'ai cédé.
Face aux problèmes de survie, le griot subit lui aussi les dérives de la modernité. Certains, par leur sollicitude importune et l'appât du gain, abusent et soutirent de l'argent à la moindre occasion.
Il y a ce phénomène qui est un phénomène de mode, que je qualifie, le griot qui chante la même louange pour 1000 personnes. Ça ne m'intéresse pas et fort heureusement, autour de moi, les griots ne sont pas comme ça. Parce que pour moi, être griot, en tout cas louer son maître, ce n'est pas seulement circonstanciel. C'est de tous les jours, c'est beaucoup plus profond. Le griot de la famille, il vous connaît, il connaît votre père, il connaît votre grand-père, etc. Il connaît toute votre généalogie pratiquement parce qu'il l'a reçu de son père ou de sa mère à lui ou à elle. Mais c'est pas les vrais griots restent quand même.
Autrefois, les griots dépendaient d'une famille qui leur donnait tout et ils leur étaient attachés corps et âme. Rares sont les grandes familles qui arrivent à assumer... la charge de leur griot. Et puis les gens sont allés à l'école. Et puis il y a eu l'indépendance. Et puis il y a eu la guitare électrique. Donc des jeunes, des griots qui ont maintenant un certain âge, qui se disent initiés, en fait n'ont appris qu'à annoncer les chants et les hymnes. Ils en connaissent à peine la signification. Et avec l'immigration, bon, les griots ont encore suivi les migrants, c'est-à-dire les gens dont dépendait leur famille. Et maintenant, tous ces villes artistes, mais pas griot. Au Mali, par exemple, dès l'indépendance, il y a eu plusieurs tentatives de faire refleurir la fonction du griot d'ailleurs et du musicien, et partant perpétuer ce support fondamental de la culture, de la philosophie, de l'histoire. Mais c'est la musique et les spectacles qui ont pris le pas sur les autres aspects de cette culture et surtout de celle détenue par les griots.
L'art de la parole nous amène tout naturellement à parler du conte. Que l'on ait 7 ou 77 ans, il fait partie de notre imaginaire. Et il a de beaux jours devant lui, qu'il se présente sous forme de superproduction cinématographique, qu'il soit raconté à la maison ou qu'il fasse l'objet de spectacles. Rencontre avec la conteuse Mimi Barthélémy, Haïti est son pays natal, et sa carrière professionnelle se confond avec une pure passion, la créolité comme mode de vie et lecture du monde. Éprouvant un réel plaisir à vadrouiller et porter la parole, elle interprète le fond créole et l'imaginaire du conte haïtien.
Cric, crac, quoi, 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 Li longe lang li sou li, li vale le kip. Petit bon Dieu manque tout fait, mais li pa mouri non. Etan nan l'estomac bagay la, li commence taye ak ti manchette li, li taye, li taye, jouk li rive lan kebet la. Li coupe kebet lan plap, li filangel jouk tan bet la mouri boum. Ato, msye chache chimen pou le sorti. Mais histoire pa mouen, voilà l'histoire. Le petit bon Dieu, petit bon Dieu, en fait c'est une page de la Bible, hein. C'est le petit, le fils de Dieu qui vient et qui sort le monde de l'obscurité. Il y a plusieurs sortes d'obscurité, ça peut sortir de la dictature, ça peut sortir de l'arbitraire, sortir de, simplement de l'obscurité et de l'ignorance. Et il lutte directement contre cette grosse bête qu'on appelle Bagay, ou qu'on peut appeler Bakulubaka, un diable. Et lui, avec sa machette, tout petit comme il est, devant cet énorme monstre, il va de l'intérieur du monstre, puisqu'il est avalé par le monstre, de l'intérieur, avec sa machette, il arrivera à le tuer et sortir le soleil qui, lui aussi, avait été avalé par le monstre.
Un genre de petit Jonas, d'un petit Kirikou qui irait dans le ventre de la baleine.
Oui, je vois que vous êtes très influencé par Kirikou. En fait, c'est ça. Si vous préférez Jonas ou Kirikou, c'est bon. Kirikou étant une histoire africaine qu'un Européen a repris, n'est-ce pas ? Et quant à Jonas, on voit la partie, on voit le caractère universel du conte. Quelles que soient les cultures, quelles que soient les couleurs, quelles que soient les latitudes, on trouve pratiquement toujours les mêmes solutions dans les contes, quoi. Là, on retrouve les mêmes schémas, quoi.
Alors, si vous aviez une définition à donner de ce métier, parce que c'est quand même un métier, de celui de conteur ou de conteuse, comme vous l'êtes.
Eh bien, c'est surtout un partage par la parole, un partage généreux par l'oralité de tout ce qui est du domaine de l'imaginaire, du rêve, de ce que l'homme a en lui-même de commun avec les autres hommes et les autres femmes dans la façon de rêver l'univers et rêver leur vie.
Quelles sont vos sources d'inspiration ? Je crois que Haïti, dont vous êtes originaire, n'est pas indifférent.
Non, pas du tout. Haïti, c'est ma source d'inspiration première. C'est celle dans laquelle j'ai été élevée et bercée, donc c'est celle qui m'émeut, c'est mon inspiration. Un peu plus ouvertement, si on ouvre un peu plus, ce sera, on va dire, les pays de la Caraïbe. Et donc, Haïti est ma première source d'inspiration, mais la Caraïbe, ma seconde source d'inspiration, la France, ma troisième source d'inspiration, où je vis.
Quels sont les grands thèmes finalement qui inspirent autour d'Haïti et des Caraïbes, les thèmes majeurs?
Les thèmes majeurs sont les thèmes qui intéressent l'être humain en général, hein, voyez, c'est la vie, les thèmes de la mort, de la renaissance, de la faim, de manger. Ce thème que l'on trouve tellement en Haïti est plus lié à une situation de manque. Il y a aussi le thème de la débrouillardise qui est très propre à tous nos pays. Le système D qui existait en France après la guerre, eh bien, on le retrouve beaucoup dans les contes d'Haïti à travers deux personnages qui s'appellent Malice et Bouki, qui sont en fin de compte des cousins de Renard et de Loup, et qui sont des cousins évidemment très proches de Bouki, la hyène africaine, et du lièvre africain.
On l'aura compris à vous entendre, donc le conte a tout d'abord une fonction de onirique, donc de faire rêver, mais a-t-il justement une fonction sociale, celle de transmettre des valeurs, transmettre des idées, d'unir les générations?
Tout à fait. C'est surtout un partage par la parole, un partage généreux par l'oralité de tout ce qui est du domaine de l'imaginaire, du rêve, de ce que l'homme a en lui-même de commun avec les autres hommes et les autres femmes dans la façon de rêver l'univers et rêver leur vie. Le conte a comme fonction de rassemblement des gens, et ensuite elle a une fonction spirituelle, elle a une aspiration de transcendance.
Lorsque l'on parle de conte, on imagine, on a cette image, je dirais, des enfants réunis au coin du feu, autour des grands-parents peut-être, l'adulte, l'enfant, le récit. Est-ce que tout ça est un peu désuet, et qu'aujourd'hui finalement le conte, il a pris aussi d'autres manières de s'exprimer, il a pris d'autres voies?
Oui, alors bien que les parents arrivent encore, beaucoup de parents arrivent à trouver un moment pour conter à leurs enfants, et ça c'est très très important qu'ils continuent à le faire, mais le conte devient en effet un genre beaucoup plus collectif, n'est-ce pas?
Donc un spectacle total, disons.
Pour moi, il s'agit là d'un spectacle total dans lequel je chante, je danse, je fais un travail sur la voix chantée, la voix parlée. Enfin, l'être humain est un être total et qu'il faut utiliser tous les moyens vocaux, gestuels, tous les genres, mimes, tout ce qui est en notre possibilité, l'utiliser. Je dirais que c'est quelque chose qui ne peut pas mourir, puisque à partir du moment où on a une capacité d'émerveillement, une capacité de laisser libre cours à son imaginaire, ça ne mourra jamais. On peut pas imaginer à un moment donné où ce conte meurt à jamais.
En tout cas, ça c'est sûr. Salut, moi je suis Tsunami MC, celui qu'on a surnommé le griot blanc de Paris, car même si je suis beaucoup d'ici, je suis aussi un petit peu de là-bas. Si je kiffe les riffs aussi d'AC/DC, je kiffe aussi le son façon d'Ibango, Makeba, djembé, kora, guitare, je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça car mon style et mon flow viennent pas d'Amérique, viennent pas des USA, mon style et mon flow viennent tous les deux d'Afrique, et c'est très bien comme ça. Salut, moi je suis Tsunami MC, et tel que tu me vois ici, je suis celui qu'on a surnommé le griot blanc de Paris, et combien tu paries que même si je fais le nouveau MC, je me prends pas pour le nouveau Messi, même si d'autres gars ont déjà fait cette rime-ci.
Il s'appelle Tsunami MC, il manie lui aussi l'art de la parole avec le slam. Pour qui ne le saurait, le slam c'est un spectacle sous forme de rencontres et de tournois de poésie. Créé à Chicago dans les années 80, il a suscité un réel engouement populaire et médiatique qui lui permet aujourd'hui de se propager dans le monde entier. Le slam fait le lien entre écriture et performance, encourageant les poètes à se focaliser sur ce qu'ils disent et comment ils le disent. Les scènes slam sont libres, se déroulent sans enjeu ni compétition, avec un seul alibi, la convivialité, comme nous l'explique Tsunami MC. Mais tout d'abord, pourquoi l'appelle-t-on le griot blanc?
Ça vient de la musique, ça vient pas... C'est bien longtemps avant, je savais même pas que je serais slameur un jour. C'est un surnom qui me vient de mon jeu de guitare, parce que j'ai grandi en Afrique et je joue la musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest à la manière africaine. Et c'est ce qui m'a valu le surnom que j'ai, bon, que j'ai conservé dans le slam et dans mes projets musicaux. Mais c'est vrai que j'anticipe peut-être la question que vous allez me poser, mais c'est vrai que le fait de véhiculer la parole et de la véhiculer avec les autres et de la partager avec les autres, il y a des points communs avec la griotique.
Alors si vous aviez une définition à nous donner du slam, quelle serait-elle ?
C'est de la poésie écrite pour être dite. C'est la performance poétique de l'art oratoire. Et c'est une manière de pratiquer la poésie tous ensemble, en groupe, en venant partager sur des scènes ouvertes ou des tournois qui sont des parodies de compétition. Parce que ce serait un peu ridicule de vouloir dire un tel est meilleur poète que l'autre. Donc c'est un prétexte à la rencontre et au partage. Partager la poésie sur le principe de la scène ouverte où tout le monde est invité à s'exprimer sans aucune distinction de race, d'opinion, de religion, d'âge, de sexe, à venir simplement exprimer ses mots pendant un temps donné, sans musique derrière, sans costume, sans décor et sans accessoires.
Un art donc de la performance poétique dans une atmosphère, je dirais, conviviale.
Voilà, c'est toujours une atmosphère très conviviale dans la mesure où le regard sur l'autre est toujours bienveillant.
Alors, est-ce qu'il y a un enjeu derrière cette performance politique, parfois, ou c'est seulement on reste dans le domaine de la poétique ?
Alors ça dépend de ce que chaque personne, ça dépend vraiment de chaque individu, de ce qu'il a envie de dire. Il y a des personnes qui vont venir simplement pour le plaisir des mots et de leur poésie, des images, des personnes qui vont venir raconter un vécu, des personnes qui vont venir exprimer des idées politiques. Sur la même scène, ça peut être des idées contradictoires, des croyances religieuses, ou raconter leur quotidien. La scène est ouverte et il n'y a aucune sélection, et chacun dans son temps de parole vient vraiment exprimer ce qu'il a exprimé, mais le mouvement slam en lui-même n'a pas de vocation à être revendicatif politiquement. Il y a vraiment une spécificité de la scène française, mais quand je dis français, c'est dans le sens francophone, c'est pas dans le sens passeport français, dans la mesure où à Paris, surtout dans les quartiers de Belleville et de Pigalle où le mouvement a démarré, et en France en général, on a la chance de vivre dans une société qui n'est pas encore, et j'espère que ça ne va pas le devenir, trop communautaire, trop communautarisée. Donc c'est-à-dire que sur la même scène, il peut y avoir des gens de 10 nationalités différentes, d'origines différentes, qui vont partager leurs paroles, parfois confronter leurs idées. C'est vraiment quelque chose de spécifique à la scène slam française et francophone, et ça donne beaucoup plus d'échanges. Cette variété, cette diversité, cette dynamique spécifique à la scène française.
Alors, ouverture, on l'aura compris, à tous les horizons.
La parole appartient à tout le monde, et on a tous besoin d'échanger, non seulement de parler aux autres, mais également d'être à l'écoute des autres. Parce que sur une scène slam, c'est important. Chaque personne, bien sûr, qui a envie de passer sur scène, passe sur scène. Mais ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est d'écouter les autres et d'apprendre à les apprécier, notamment des gens qu'a priori, socialement, avec qui on n'aurait pas eu envie d'échanger ou on n'aurait pas eu l'occasion. On peut les rencontrer par ce principe de la scène ouverte.
Est-ce que c'est un art totalement de l'improvisation ou seulement en partie, finalement ?
Il y a une image d'improvisation dans le slam, mais... Au contraire, la plupart des slameurs sont des gens qui travaillent beaucoup l'écriture et l'interprétation.
Alors jusqu'il y a peu, peut-être, cet art était quand même un art en marge de ce qu'on connaît habituellement. Est-ce qu'il y a le risque d'être récupéré, je dirais, par le système ?
Comme tout mouvement émergent, il y a des choses qui démarrent, il y a une période de créativité, d'ébullition, et à partir de là, à partir du moment où, comme dans tout ce qui se passe pratiquement dans le monde, dès que quelque chose peut générer des projets avec de l'argent, forcément, il y a une récupération commerciale, il peut y avoir une récupération idéologique. Évidemment, il y a tous ces risques de l'argent, de l'idéologie, mais c'est comme tout. C'est une projection de ce qui se passe dans la société et dans le monde. Donc, comme tout, oui, bien sûr, ça peut être récupéré, déformé. Le seul but, à la base, c'est de partager la parole et d'ouvrir à toutes et tous. C'est pas de faire passer un message qui vient d'en haut pour descendre vers le public. S'il n'y a pas une bonne parole slam, une bonne pensée slam, et on a parfois sur les scènes, mais vraiment des gens qui ont des croyances ou des opinions contradictoires et qui s'écoutent, et voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer d'avis, mais au moins ils s'écoutent au lieu de s'affronter. On n'a pas à transmettre quelque chose, on a simplement à ouvrir l'espace aux autres.
Fin de ce magazine. Je vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de Noël. À la semaine prochaine.